Frédéric Cachera, que retenez-vous de l'actualité nationale et internationale de ce mercredi?
Eh bien, c'est encore des attaques contre les travailleurs. À travers cette réforme du Code du travail menée par la ministre Myriam El Khomri, il faut absolument dénoncer cette politique-là qui ne vise qu'à encourager les profits patronaux. Et c'est la raison, y compris de notre présence dans ces élections, dénoncer ce gouvernement qui est du côté du grand capital. Et,
il n'est pas aux côtés aussi de la flexibilité à travers ces propositions
bien
qui
sûr,
sont encore
bien sûr, c'est
à être travaillées, mais quand on parle de faire travailler 60 heures par semaine sans demander l'aval du côté du droit du travail, est-ce que là aussi c'est pas une réponse à la flexibilité demandée qui pourra permettre aussi de gagner plus par la même occasion?
Mais la flexibilité, c'est surtout permettre aux patrons de pouvoir user de façon comme ils l'entendent les travailleurs dans ce pays.
Vous pensez pas que certains travailleurs c'est
pour. Si les patrons ont besoin de, comment dire, d'embaucher, ont besoin d'accroître leur travail, le travail dans leur entreprise parce qu'il y a une croissance momentanée, qu'ils embauchent et qu'on répartisse le travail entre tous. Répartir le travail entre tous, ça veut évidemment dire en maintenant les salaires, parce que en fait, on a besoin de ce salaire pour vivre, c'est notre gagne-pain. On peut pas, comment dire, accepter ce diktat-là du patronat. Il y a 6 millions de chômeurs en France, toutes catégories confondues, pardon. Voilà, c'est un drame. Et si vous demandez, alors, il y a des tas de sites. Enfin, aujourd'hui, les attaques du gouvernement qui relaie les intérêts du patronat, c'est d'accroître l'exploitation des travailleurs. Voilà. C'est l'unique, comment dire, objectif de ce gouvernement-là, et permettre aux patrons de faire encore beaucoup, encore des profits. Voilà.
Et
il faut que les travailleurs ils s'organisent et mettre un coup d'arrêt à cette politique-là. On
n'a
que ça pour vivre notre travail.
Quand les entreprises disent justement, le problème, c'est que on voudrait bien embaucher, mais nos charges augmentent depuis 2010. On se sent aujourd'hui asphyxié.
Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on mène une politique de baisse des charges. Ça a changé quoi?
Donc
ça a changé quoi? Depuis
les
années 80, on diminue les charges des entreprises. L'impôt sur les bénéfices est passé de 50% sous Giscard à moins de 30% aujourd'hui.
Du coup,
est-ce que le chômage a baissé pendant cette période? Non. Non.
Du
Par
coup,
contre,
le débat autour
des grandes, ouais. La fortune des grandes entreprises, la fortune des grands actionnaires,
qui correspond
de Mme Bettencourt, de M. Michelin, etc., n'a pas cessé de croître.
Qui ne correspond pas tout à fait au tissu industriel et professionnel des Alpes du Sud, pour autant, ce que vous dénoncez là. Les Bettencourt sont loin de chez nous. Ils existent, mais ils sont loin de chez nous, en l'occurrence.
Bon, bah, vous avez un Leclerc juste à côté, d'ici.
D'accord. Bon. Simplement, l'idée
Vous avez des grandes surfaces, vous avez l'industrie de l'agroalimentaire, c'est la même chose dans partout. Voilà.
Simplement, l'idée de la réforme du Code du travail, vous y êtes donc totalement opposé?
Bah évidemment, il s'agit de casser les droits des travailleurs, des droits pour lesquels les travailleurs se sont battus. Hein. On ne va pas rappeler les grandes luttes menées par le mouvement ouvrier depuis juin 36 et puis bien avant, y compris sur le suffrage universel. Mmh. Mais ce sont les luttes des travailleurs qui ont permis d'obtenir ces droits-là, parce que sinon, on serait toujours en train de travailler 14 heures par jour dans les usines.
Avec vous, on revient sur un sujet d'actualité qui aura peut-être retenu votre attention.
Si je peux intervenir sur même deux sujets, d'abord justement, on en parlait tout à l'heure, la flexibilité, vous voyez que les travailleurs de la souche sont opposés à cette forme de flexibilité qui est de cette réorganisation du travail imposée par la direction. Donc vous voyez bien que quand vous demandez l'avis des travailleurs, lorsqu'il s'agit de flexibilité, ben, les travailleurs s'y opposent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour eux, une adaptation aux intérêts de la société, etc., au détriment de notre vie de famille, y compris de l'emploi, parce que la flexibilité, c'est y compris permettre, faire en sorte que ceux qui pourraient rentrer dans l'entreprise liés à un accroissement de l'activité puissent y rentrer. Bon. C'est tout ça.
Et ça veut dire que finalement, vous considérez que la flexibilité, elle ne peut pas exister à partir du moment où on a signé un contrat, on ne peut pas revenir en arrière ou renégocier.
Eh bien, moi, je pense que la flexibilité, il faudrait l'imposer aux profits patronaux. C'est-à-dire que quand ça va mal, eh bien, diminuons les profits patronaux et faisons en sorte que cette manne d'argent puisse permettre aux travailleurs de vivre. Voilà. Voilà la flexibilité que nous, voilà comment on l'envisage la flexibilité, c'est-à-dire que les intérêts des patrons, ça devrait être secondaire vis-à-vis des intérêts des travailleurs, qui n'ont que leur travail pour vivre. Je rappelle quand même que le nombre de, vous avez vu Air France, 2900 emplois supprimés, prévus justement en demandant plus de flexibilité pour accroître la compétitivité. Simplement, voilà, une meilleure compétitivité. Qu'est-ce que c'est un salaire compétitif? C'est un bas salaire. Qu'est-ce que c'est que des horaires compétitifs? C'est travailler plus pour gagner moins. Voilà. Autre sujet sur lequel je voulais
j'aimerais vous faire agir. Justement, c'est peut-être le même d'ailleurs. Le flux migratoire, justement, et le Front National qui exige, et je dis bien qui exige, de l'État l'organisation d'un référendum. Est-ce qu'un parti a le droit d'exiger de l'État?
Le Front National fait ce qu'il veut, et en tout cas, à propos des migrants, c'est son fonds de commerce. Et c'est un fonds de commerce qui renifle des idées nauséabondes. Voilà, nous, notre position par rapport à ça, c'est que ces migrants qui fuient des situations qui sont intenables. Je ne sais pas si vous seriez resté sous les bombes, que ce soit de la part des alliés ou que ce soit de la part des régimes qui en place, qui défendent l'ordre établi. Et derrière l'ordre établi, il y a l'ordre impérialiste, dont on est effectivement responsable directement de cette situation-là dans ces pays, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc.
Vous rejoignez sur ce point-là le Front National qui effectivement critique les politiques, considèrent que la faute est aux décisions politiques qui ont été prises depuis de nombreuses années. Là-dessus, vous êtes d'accord sur ce point-là?
Non, je ne suis pas d'accord.
J'ai dit
que la situation dans ces pays-là, elle est directement la responsabilité des grandes puissances.
Voilà, c'est ce que dit le Front National.
Les grandes puissances qui défendent l'accès aux ressources naturelles, qui défendent l'accès au pétrole, qui défendent que dans ces pays-là, tout le monde se tienne à carreau en soutenant des dictatures, en soutenant des régimes militaires, etc.
Donc
des régimes réactionnaires,
là-dessus, vous êtes
nationalistes.
D'accord. Alors, là-dessus, simplement, vous êtes d'accord sur le Front National. La grande différence, c'est que vous êtes pour l'accueil des migrants.
Je suis pour la liberté d'installation et de circulation des migrants. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment que si il y avait la liberté de circulation et d'installation des migrants, on n'aurait peut-être pas ce problème-là à Calais, parce que les migrants seraient disséminés partout en Europe. Vous vous rendez compte, accueillir 25 000 migrants sur 2 années en France, mais qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau. C'est vraiment, alors quand le Front National fait son fonds de commerce là-dessus, c'est une façon de diviser les travailleurs, une façon de faire en sorte que les travailleurs s'en prennent les uns aux autres, et ça sert la politique patronale.
Le Front National, vous savez,
il est du côté des patrons, hein, on l'a vu y compris lors des événements du 5 octobre à Air France, quand Marion Maréchal Le Pen avait parlé de lynchage à propos des deux dirigeants de Air France et avait crié au loup de la même façon que tous les autres organisations politiques.
On va y revenir dans un instant, parce que ce que vous annoncez là n'est pas si évident que ça par rapport au vote populaire.
Je reviens simplement sur le drame migratoire. Vous dites aujourd'hui, si on avait une liberté au niveau des frontières, il serait disséminé partout. Cependant, est-ce que vous pensez qu'ils resteraient en France où ils n'ont pas le droit de travailler?
Mais n'importe quel travailleur, vous savez, dans le mouvement ouvrier, on a tout le temps défendu la liberté de circulation des travailleurs. Quand vous n'avez pas de boulot à un endroit, quand vous n'avez pas de boulot, moi je me mets du côté des travailleurs, je me mets du côté de quelqu'un qui n'a pas de boulot. Bon, il n'y a pas de boulot dans une ville, je change de ville. Il n'y a pas de boulot dans une région, je change de région. Il n'y a pas de boulot dans un pays comme, ceux qui sont en train de fuir.
En fait, ma question est beaucoup plus précise que ça.
S'il y a une frontière entre l'endroit où il n'y a pas de travail et l'endroit où il y a un travail, tant pis pour la frontière. Je suis pour que les travailleurs puissent circuler librement.
Est-ce que vous êtes pour le fait que les migrants puissent travailler en France?
Bien sûr. Ce sont nos frères de classe, ces migrants. Ce sont des travailleurs. Ce sont des, c'est des gens avec qui demain, on est un, comment dire, si vous regardez l'histoire en France, dans ce pays, enfin, je veux dire, toute l'histoire migratoire de ce pays-là, vous regardez vous regardez Marseille, il n'y a pas un nom qui n'est pas une consonance italienne dans cette ville. Bon, c'est toute l'histoire de tous les pays, les migrations. Donc, et à chaque fois, ce sont des gens qui quittent une région pour travailler, pour trouver du travail. Et si on a, comment dire, la...
On va marquer une pause avec Keshra. J'en profite que vous repreniez votre respiration. Mais on va continuer à discuter, hein, c'est pas fini.
Je pense qu'il faut que les travailleurs conscients, comment dire, de vivre dans cette société-là, il faut qu'ils expriment leur solidarité envers d'autres travailleurs qui fuient des situations qui sont inextricables. Vie des travailleurs, lorsqu'il s'agit de flexibilité, ben, les travailleurs s'y opposent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour eux, comment dire, une adaptation aux intérêts de la société, etc., au détriment de notre vie de famille, y compris de l'emploi, parce que la flexibilité, c'est y compris permettre, faire en sorte que ceux qui pourraient rentrer dans l'entreprise liés à un accroissement de l'activité puissent y rentrer. Bon, c'est tout ça que
ça, et ça que veut dire que finalement, flexibilité. Finalement, et donc, vous considérez que la flexibilité, si vous voulez, elle ne peut pas exister à partir du moment où on a signé un contrat, on ne peut pas revenir en arrière ou renégocier.
Et ben moi, je pense que la flexibilité, il faudrait l'imposer aux profits patronaux. C'est-à-dire que quand ça va mal, eh bien, diminuons les profits patronaux et faisons en sorte que cette manne d'argent puisse permettre aux travailleurs de vivre. Voilà. Voilà la flexibilité que nous, voilà comment on l'envisage, la flexibilité, c'est-à-dire que les intérêts des patrons, eh ben, ça devrait être secondaire vis-à-vis des intérêts des travailleurs, qui n'ont que leur travail pour vivre. Je rappelle quand même que le nombre de, vous avez vu, Air France, 2900 emplois supprimés, prévus justement en demandant plus de flexibilité pour accroître la compétitivité. Simplement, voilà, bah, une meilleure compétitivité. Qu'est-ce que c'est un salaire compétitif? Bah, c'est un bas salaire. Qu'est-ce que c'est que des horaires compétitifs? Bah, c'est travailler plus pour gagner moins.
Voilà.
Autre sujet sur lequel je voulais
j'aimerais vous faire réagir. Justement, c'est peut-être le même d'ailleurs. Peut-être le flux migratoire, justement, et le Front National qui exige, et je dis bien qui exige, de l'État, l'organisation d'un référendum. Est-ce qu'un parti a le droit d'exiger de l'État?
Le Front National fait ce qu'il veut, et en tout cas, à propos des migrants, c'est son fonds de commerce. Et c'est un fonds de commerce qui renifle des idées nauséabondes. Voilà, nous, notre position par rapport à ça, c'est que ces migrants qui fuient des situations qui sont intenables. Je ne sais pas si vous seriez resté sous les bombes, que ce soit de la part des alliés ou que ce soit de la part des régimes qui en place, qui défendent l'ordre établi. Et derrière l'ordre établi, il y a l'ordre impérialiste, dont on est effectivement responsable directement de cette situation-là dans ces pays, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc.
Vous rejoignez sur ce point-là le Front National qui effectivement critique les politiques, qui considèrent que la faute est aux décisions politiques qui ont été prises depuis de nombreuses années. Là-dessus, vous êtes d'accord sur ce point-là?
Non, je ne suis pas d'accord.
J'ai dit
que la situation dans ces pays-là, elle est directement la responsabilité des grandes puissances.
Voilà, c'est ce que dit le Front National.
Les grandes puissances qui défendent l'accès aux ressources naturelles, qui défendent l'accès au pétrole, qui défendent que dans ces pays-là, tout le monde se tienne à carreau en soutenant des dictatures, en soutenant des régimes militaires, etc.
Donc
y compris des régimes réactionnaires,
là-dessus, vous êtes
nationalistes.
D'accord. Alors, là-dessus, simplement, vous êtes d'accord sur le Front National. La grande différence, c'est que vous êtes pour l'accueil des migrants.
Je suis pour la liberté d'installation et de circulation des migrants, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment que s'il y avait la liberté de circulation et d'installation des migrants, on n'aurait peut-être pas ce problème-là à Calais, parce que les migrants seraient disséminés partout en Europe. Vous vous rendez compte, accueillir 25 000 migrants sur deux années en France, mais qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau. C'est vraiment, alors quand le Front National fait son fonds de commerce là-dessus, c'est vraiment, c'est une façon de diviser les travailleurs. une façon de faire en sorte que les travailleurs s'en prennent les uns aux autres. Voilà. Et ça, ça sert la politique patronale.
Frédéric
et
Cachera,
donc, le Front National, vous savez, il est du côté des patrons. Hein, on l'a vu y compris lors des événements du 5 octobre à Air France, quand Marion Maréchal Le Pen...
On y reviendra on aura le temps de parler de ça.
Marion Maréchal Le Pen avait parlé de lynchage à propos des deux dirigeants de Air France et avait crié au loup de la même façon que tous les autres organisations
politiques. Frédéric Cachera, on va y revenir dans un instant, parce que ce que vous annoncez là n'est pas si évident que ça par rapport au vote populaire.
Je reviens simplement sur le drame migratoire. Vous dites aujourd'hui, si on avait une liberté au niveau des frontières, il serait disséminé partout. Cependant, est-ce que vous pensez qu'ils resteraient en France où ils n'ont pas le droit de travailler?
Mais n'importe quel travailleur, vous savez, dans le mouvement ouvrier, on a tout le temps défendu la liberté de circulation des travailleurs. Quand vous n'avez pas de boulot à un endroit, moi je me mets du côté des travailleurs, je me mets du côté de quelqu'un qui n'a pas de boulot. Bon, il n'y a pas de boulot dans une ville, je change de ville. Il n'y a pas de boulot dans une région, je change de région. Il n'y a pas de boulot dans un pays comme ceux qui sont en train de fuir.
Ma question est beaucoup plus précise.
S'il y a une frontière entre l'endroit où il n'y a pas de travail et l'endroit où il y a un travail, tant pis pour la frontière. Je suis pour que les travailleurs puissent circuler librement.
Est-ce que vous êtes pour le fait que les migrants puissent travailler en France?
Bien sûr. Ce sont nos frères de classe, ces migrants. Ce sont des travailleurs. C'est des gens avec qui demain, on est un, si vous regardez l'histoire en France, dans ce pays, toute l'histoire migratoire de ce pays-là, vous regardez Marseille, il n'y a pas un nom qui n'est pas une consonance italienne dans cette ville. Bon, c'est toute l'histoire de tous les pays, les migrations. Donc, et à chaque fois, ce sont des gens qui quittent une région pour travailler, pour trouver du travail. Et
on va marquer une pause avec Cachera. J'en profite que vous repreniez votre respiration. Mais on va continuer à discuter, c'est pas fini.
Je pense qu'il faut que les travailleurs conscients de vivre dans cette société-là, il faut qu'ils expriment leur solidarité envers d'autres travailleurs qui fuient des situations qui sont inextricables.
Voilà qui est dit. On vous retrouve dans un instant, Frédéric Cachera. Je rappelle que vous êtes tête de liste lutte ouvrière dans les Hautes-Alpes pour les élections régionales PACA. Et on se retrouve notamment juste après vos prévisions Météo France. Alors ce soleil, il vient ou il vient pas?
Au bout de l'actu, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Et avec ce soir notre invité, Frédéric Cachera, qui est tête de liste lutte ouvrière dans les Hautes-Alpes pour les élections régionales PACA. On en parlait à l'instant, je vous disais, prenez du temps, on va en avoir pour parler de ce sujet un peu plus en profondeur, parce que vous nous disiez, nous sommes les représentants des travailleurs, nous sommes les représentants des ouvriers, à l'instar du Front National. Sauf que force est de constater aussi aujourd'hui qu'à travers les différents sondages, d'opinion, les ouvriers, les travailleurs se tournent plus vers le Front National que vers lutte ouvrière.
Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que d'illusion en désillusion au travers des différentes élections qui se sont succédées depuis les années 80, et y compris avec les partis de gauche qui ont entraîné les travailleurs dans cette illusion électorale, c'est eux qui les ont déçus. C'est eux qui les ont déçus et qui n'ont pas donné d'autres perspectives aux travailleurs que les échéances électorales. Donc,
Pas pour autant que le Front National ravit finalement vos votes base.
Il se positionne tout simplement comme une troisième roue. Sauf que ce qu'ils recherchent de toute façon, c'est les mêmes objectifs. C'est accéder au poste et
c'est pas le cas pour lutte ouvrière. Vous ne cherchez pas à accéder au poste. Vous ne cherchez pas à l'élection à la région PACA.
Je vais vous dire, si on se présente au régional, c'est simplement pour faire, principalement pour faire entendre une voix, celle des travailleurs, et pour exprimer un positionnement politique. On est des militants politiques. De toute façon, depuis, y compris à la tête des régions, les uns et les autres se succèdent, ça ne change absolument rien pour les travailleurs. Demain, il y aura un autre président. Une autre présidente, je n'en sais rien, ça ne changera rien sur le fond pour les travailleurs. Donc,
vous êtes là non pas pour être élu, mais pour faire une sorte de lobbying, de groupe de pression?
On est là pour exprimer une voix, un positionnement politique, je vous dis.
Mais de contre-pouvoir, pas de pouvoir.
Nous, on est pour que ce soit les travailleurs qui prennent le pouvoir, vous comprenez? Et prendre le pouvoir pour les travailleurs, ça veut dire, comment dire, mener ce qu'on défend, notre programme, le programme qu'on défend dans ces élections, c'est pas un programme de réforme, c'est pas un programme électoral, c'est un programme de lutte. C'est-à-dire, ce sont les revendications que les travailleurs devront mettre en avant lorsque ils se mettront en colère. Alors aujourd'hui, il y a des travailleurs qui se mettent en colère. Local, c'est dans une petite entreprise, c'est les gars d'Air France, c'est les gars de PSA Aulnay, voilà. Mais il faudrait que ces mouvements se fédèrent, il faudrait que la colère, elle s'exprime sur ce terrain-là. Parce que, comment dire, et bien évidemment, on fera le score qu'on fera, mais au lendemain des régionales, qu'est-ce qui se passera? Hein, qu'est-ce qui se passera pour les travailleurs? Les attaques du gouvernement vont se poursuivre. Alors nous, on reste quoi? Les bras ballants? On attend les prochaines échéances électorales? Ou on se prépare à nous battre? On se prépare dans les entreprises à faire face aux attaques des patrons?
Comment se battre sans réforme? Parce que vous l'avez dit vous-même, on ne fera pas de réforme, on veut lutter, mais comment on se bat sans vouloir faire des réformes? Je ne vois pas comment on peut changer les choses.
Ben, si vous voulez, comment dire, nous, notre première mesure qu'il faudrait imposer, puisque le problème principal étant le chômage, c'est d'interdire le chômage. Qui c'est qui crée le chômage aujourd'hui? C'est Air France qui licencie. C'est ces grandes entreprises qui licencient. C'est la situation générale qui fait que, comment dire, on cherche par tous les bouts de,
Air France,
à faire des profits
Air
par
France
tous les
pas,
bouts, en
Air
faisant
France
travailler plus longtemps les travailleurs jusqu'à 62, 63 ans.
Frédéric Echara, le Air France n'est pas responsable du chômage dans les Alpes du Sud. Encore une fois, on en revient à ce tissu professionnel dans les Alpes du Sud qui n'est pas exactement le même que ce qu'on peut trouver à travers Air France, par exemple.
70% du tissu économique provient des petites et moyennes entreprises et des très petites et des petites et moyennes entreprises.
Mais les petites entreprises, elles travaillent pour qui? Elle travaille pour qui? Si vous prenez ArcelorMittal, combien de petites boîtes sous-traitantes travaillent pour ArcelorMittal? Quand vous êtes à la porte de l'usine en train de distribuer des tracts, combien de petites boîtes sous-traitantes avec leurs camions qui rentrent, etc.
Ce qui ne correspond encore pas.
La petite boîte de nettoyage, la petite boîte d'électricien.
Ce qui ne correspond encore pas au tissu professionnel.
Mais les petites boîtes, elles dépendent de l'activité, elles dépendent essentiellement de l'activité des grosses entreprises.
Globalement peu, ici.
Vous regardez le CEA, combien d'entreprises sous-traitantes rentrent sur le site du CEA? Bon, ce tissu-là...
Mais qu'est-ce que vous dites aux travailleurs,
dire,
pardon?
Il dépend de comment dire du fonctionnement général de l'économie.
Si
et ce fonctionnement
demain,
combien d'entreprises sous-traitantes vont être liquidées si je sais pas moi imaginez que Volkswagen ferme. Bon,
donc
combien,
qu'est-ce qu'il
combien
faut
de
faire
travailleurs
des
boîtes sous-traitantes
bout,
vont fermer?
Allons jusqu'au bout, Frédéric Cachera. Si demain on supprime ces grands groupes, on fait quoi avec les
TPE? On supprime pas ces grands groupes, mais il y a combien de milliards qui sont dégagés par leur activité?
Si vous interdisez de licencier aux grands groupes, vous l'interdirez aussi aux PME et TPE.
Moi,
et
je
parfois,
suis
elles
pour...
ont besoin de flexibilité.
Alors, si vous voulez comment dire, savoir si quelle est la bonne ou mauvaise santé de notre entreprise, ouvrons les comptes. Ouvrons les comptes de ces entreprises, faisons en sorte que c'est, et ça c'est un des aspects de notre programme, c'est de rendre publics les comptes des entreprises, que les travailleurs sachent où va l'argent qui est le fruit de leur travail, où va l'argent qui est le fruit de leur activité au quotidien, etc.
Vous entendez tout de même, Frédéric Cachera, que vous ne vous adressez pas, encore une fois, aux travailleurs des Alpes du Sud à travers les propos que vous tenez aujourd'hui, qui pour la plupart travaillent dans des circuits courts, donc ne font pas forcément de l'export à l'international, ne travaillent pas pour des grands groupes, travaillent pour le tourisme. Le tourisme, c'est du local, là aussi, et c'est de pas délocalisable. Est-ce que vous avez la sensation que votre discours peut être perçu aujourd'hui par les travailleurs des Alpes du Sud à travers votre discours aujourd'hui? Vous nous parlez de grandes entreprises qui ne nous concernent pas, finalement, ici, ou tellement peu.
Non, mais comment dire Bon, je fais une sorte de pirouette, mais vous pensez que les travailleurs des Hautes-Alpes et des Alpes du Sud en général sont concernés par le problème des migrations? Bon, alors les travailleurs sont intelligents si on s'adresse à leur intelligence, et je pense qu'ils sont en mesure, y compris dans les Hautes-Alpes, de comprendre que le problème numéro un, c'est cette société capitaliste qui ne fait tourner l'économie que pour réaliser des profits, quelques-uns.
Les élections régionales ne sont que des élections nationales.
Mais bien sûr, mais qu'est-ce qui va se passer au soir du premier tour, d'après vous, les commentateurs vont analyser les résultats de ces élections et ils vont bien sûr l'analyser à l'échelle nationale. Et les travailleurs, ils doivent se saisir de ce bulletin de vote pour y compris dire ce qu'ils pensent. Et si ce qu'ils pensent, c'est qu'il faut absolument sanctionner ce gouvernement, d'abord, ils le feront. Et il y a aussi, par ailleurs, des tas de gens, des tas de travailleurs qui ne vont plus s'exprimer dans les urnes parce qu'ils sont justement déçus. Mais nous, on leur donne la possibilité de dénoncer cette politique-là, d'exprimer leur colère à travers un programme ouvrier, un programme de lutte et un programme qui nous divise pas, qui nous rassemble et qui désigne comme responsable de cette situation les grands groupes industriels, les grands groupes capitalistes.
Donc ce que vous proposez comme programme, c'est finalement mettre un bulletin lutte ouvrière pour ensuite prendre un autre type de bulletin qui serait plutôt de l'ordre du pavé, monter jusqu'à Paris et jeter ces pavés finalement sur ces grands groupes.
Nous, on est pour l'action collective. Vous savez, l'action collective, c'est une action consciente. Il faut que les travailleurs soient forts, il faut qu'ils soient nombreux et qu'ils sachent, trouver le moyen de faire reculer, une politique qui est celle de les exploiter de plus en plus. Et l'intérêt pour l'ensemble des travailleurs, c'est d'avoir conscience que un jour, que cette colère-là va s'exprimer. Et que
ça fait 30 ans qu'Arlette Laguiller nous le promet.
Je sais bien, mais quand vous voyez la situation qui se dégrade, c'est pas une promesse. Ce que je veux dire, c'est la promesse, c'est que cette situation-là, elle se dégrade et on n'a jamais menti aux travailleurs. Les élections, de toute façon, pour eux, ça ne changera rien. La seule perspective, c'est la lutte du monde du travail contre.
Vous savez qu'avec ce discours, vous allez tout droit avec une abstention encore plus importante. Ces élections ne serviront à rien. Si je vais voter demain, moi j'y vais pas.
Les gens ont envie d'exprimer cette colère-là positivement, s'ils ont envie que, une opposition à ce gouvernement-là s'exprime autrement que de la droite à l'extrême droite, ils pourront le faire avec une candidature communiste.
Bref, vous nous proposez la révolution de finalement couper des têtes de nouveau et de revivre en 1789 ? Je suis peut-être un petit peu caricatural dans mon regard, je m'en excuse, mais
je suis révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui est sanglant aujourd'hui? Vous regardez la situation aux quatre coins de la planète, regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe en Afghanistan.
S'en inspirer.
C'est pas ça, c'est la situation actuelle qui est violente et qui est sanglante pour les travailleurs. Combien de travailleurs aujourd'hui de la Poste ou des télécoms se sont suicidés à cause de la réorganisation du travail? C'est ça qui est violent pour les travailleurs. Ce qu'on exprime à travers ça, c'est qu'il faut qu'on se défende. Il faut qu'on se défende collectivement. Se défendre collectivement, c'est faire pression sur le patronat pour que nos collègues de travail ne soient pas licenciés, pour augmenter les salaires, parce qu'aujourd'hui...
Frédéric Cachera, se défendre collectivement, mais votre discours est restreint. Alors vous parlez des travailleurs, ceci dit, vous ne parlez pas des saisonniers, vous ne parlez pas des agriculteurs, vous ne parlez pas forcément non plus des retraités. Voilà. C'est quand même une grande partie des travailleurs des Alpes du Sud que vous êtes en train d'écarter de votre discours.
Pas du tout.
Les agriculteurs ne vont pas prendre des pavés contre leur patron, ils sont leurs propres patrons.
Mais vous savez, les
saisonniers sont souvent saisonniers de remontées mécaniques.
Les petits agriculteurs dans ces régions-là, vous savez, ils sont bien souvent victimes la proie des grandes de l'industrie agroalimentaire, des grands groupes, des grandes enseignes commerciales, etc., qui leur achètent leurs produits au plus bas prix, etc. Ils doivent absolument serrer au maximum les boulons pour pouvoir continuer à vivre. Alors ils sont leurs propres patrons peut-être, mais ils ont pour la plupart des difficultés qui sont comment faire plus en gagnant moins, et c'est ce que leur imposent les grands groupes à nouveau. Bon, alors, des travailleurs indépendants, ils peuvent se reconnaître dans le discours de lutte ouvrière et trouver une solidarité avec l'ensemble du monde du travail, à qui on demande toujours de faire plus avec de moins en moins de moyens financiers, de moins des salaires qui n'augmentent pas et de moins en moins de travailleurs.
Si je vous dis que finalement le programme de lutte ouvrière est biaisé parce que d'un côté vous êtes en train de dénoncer les grands patrons, mais en même temps on sent bien que dans votre modèle, les TPE et PME, les agriculteurs ont besoin des grands patrons tout simplement pour pouvoir avoir une vie économique.
Mais on a besoin d'activité, on a besoin de construire des logements, on a besoin de construire des logements, on a besoin que des hôpitaux soient construits, on a besoin de personnel dans les services publics, les transports, etc.
Vous répondez pas à ma question.
Si, on n'a pas besoin d'une petite minorité qui, sur cette activité générale qui constitue l'économie finalement de la société.
Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement on en a besoin puisque les agriculteurs vivent de l'agroalimentaire.
Laissez-moi terminer. On n'a pas besoin de cette caste de privilégiés qui se gave sur le dos des travailleurs. C'est de ça dont on n'a pas besoin. Bien sûr qu'on a besoin d'une activité, bien sûr qu'on a besoin...
Mais vous êtes en train de monter les salariés contre les patrons dans les Alpes du Sud qui ne correspondent pas, encore une fois, à ce qu'ils vivent au quotidien. Est-ce que les patrons dans les Alpes du Sud sont tous des nantis, comme vous le dénoncez, comme vous le décrivez ? Sont-ils tous des profiteurs de situations et de salariés qu'ils mettent à bout ?
Mais c'est un problème.
Vous en êtes si sûr que ça ?
C'est un problème général.
Oui, j'entends bien.
On va pas faire. CAC 40,
c'est un problème général.
J'entends bien. Mais
demain, vous avez.
Est-ce que vous ne jouez pas avec des peurs qui n'existent pas encore une fois ici ?
Mais il faut. Je pense qu'il faut arrêter de trop localiser les.
Oui, mais
les
le problème, c'est que c'est quand même
demain,
là que ça se passe.
La désertification des campagnes, elle est quand même liée au fait qu'il n'y a pas d'activité dans les campagnes. Alors, et les gens, ils rejoignent les villes. Alors demain, ils habitent ici. Demain, ils habiteront ailleurs.
Ce qui n'est pas exactement la réalité. Keshra, vous connaissez mal votre territoire, puisque en l'occurrence, aux Alpes et aux autres provinces, ont plutôt une démographie qui est croissante.
Oui, peut-être aujourd'hui, bien sûr. Oui, quand je dis désertification, c'est à une autre époque. Mais... Oui, donc, quelle est votre démonstration ?
Non, ce n'est pas une démonstration, c'est simplement une question de savoir que finalement, vous êtes en train d'agiter des peurs qui ne correspondent pas à un tissu local, à savoir de dire les patrons vont vous faire du mal et profitent forcément de vous. Je me pose simplement la question de savoir, est-ce que c'est vraiment le cas dans les Alpes du Sud ? Est-ce que là, vous ne mettez pas en avant une peur qui n'existe pas et finalement un travail en bonne intelligence dans des petites entreprises de 3, 4, 2 salariés ?
Demain, le code du travail, il va être modifié. Nationalement. Ça va toucher forcément les travailleurs des Hautes-Alpes, comme vous dites, et des Alpes de Haute-Provence, bien évidemment. Donc, de ce point de vue-là, ils ont à s'opposer à cette politique.
J'ai une question. Est-ce qu'il faut supprimer les régions et les départements ? Finalement, parce qu'en fait, votre discours est très général, très collectif. Je vais vous l'expliquer. Finalement, vous venez de dire une élection régionale, ça ne sert à rien. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aller tout simplement dans la suppression des régions, des départements ?
Enfin, quand je dis que les régions, les assemblées régionales, vous savez, c'est une assemblée de notables qui dispose d'un budget et qui va simplement gérer ce budget en distribuant aux uns des cadeaux, aux autres faire la même chose que les autres. De toute façon, vous avez un budget qui est réduit, vous ferez certainement pas des miracles. Mais nationalement, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est pareil, que l'étiquette soit d'un côté ou de l'autre, ça change pas grand-chose pour les travailleurs. Ce qui changerait les choses pour les travailleurs, c'est leur propre mobilisation et qu'ils imposent un certain nombre de mesures, l'augmentation des salaires, l'interdiction des licenciements et le contrôle des comptes.
Ce qui changerait beaucoup de choses aussi pour les travailleurs des Alpes du Sud, c'est le désenclavement.
Les transports ?
Oui. Quel est le programme de lutte ouvrière sur ce point ? Ça concerne vraiment les travailleurs.
À quel niveau le désenclavement ? Votre pensée, parce que je ne comprends pas si vous voulez que les travailleurs puissent aller...
Je ne la précise pas parce que je vous laissais des portes
vacances,
ouvertes. Non, je ne vous la précise pas pour avoir des portes ouvertes. Justement, on peut parler de désenclavement numérique, c'est très important pour le développement économique. Je peux vous parler du désenclavement routier avec notamment la 51 ou encore les deux départementales ou encore le désenclavement ferroviaire, au choix. Désenclavement ferroviaire, on est en plein dans les compétences de la région. Ceci dit, le numérique aussi.
Non, mais moi, je suis pour que les gens ils aient accès à des transports qui soient efficaces, sécurisés. Bien évidemment, et on en a les moyens techniques aujourd'hui, bien sûr. Bon, c'est pas un problème technique qu'on soit, comment dire, peut-être isolé, etc. Bon, au niveau des transports ferroviaires, par exemple, il y a plein de choses à faire. Certainement, comment dire, aujourd'hui, la fréquence des passages des trains, leur régularité, les retards, etc. Tout ça, c'est un problème qui touche tous les travailleurs qui veulent se déplacer pour aller travailler au quotidien. Et alors pour aller travailler ou pour vaquer à leurs occupations diverses et variées. Mais ce problème-là, comment dire, du mal fonctionnement de ces transports et de ce transport en commun public, c'est, comment dire, le manque de moyens, le manque de personnel, etc. Je sais que, par exemple, si vous faites le trajet Marseille-Nice relativement fréquemment, il n'y a pas un seul train qui arrive à l'heure. Les trains sont supprimés le matin. Bon, pourquoi ? Parce qu'on a privatisé... Parce qu'on a privatisé ces services publics, parce qu'on y met de moins en moins de moyens, de moins en moins de personnel, à qui on demande de faire toujours plus. Avec la logique.
On va marquer une courte pause, Frédéric.
Elle est la même.
Oui, parce que vous constatez effectivement des constats qui sont faits par beaucoup. Pour l'instant, peu de réponses sur le sujet, mais on le comprend puisque vous ne cherchez pas le pouvoir.
Mais mettons des moyens.
Mais vous cherchez un contre-pouvoir. En résumé, sous les bulletins Lutte ouvrière, les pavés. Comme ça qu'on pourrait résumer des choses. On vous retrouve dans un instant, Frédéric Keshra, pour la troisième partie d'Au bout de l'actu. À tout de suite.
Au bout de l'actu, Alpe 1, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Et avec notre invité ce soir, Frédéric Keshra, qui est tête de liste Lutte ouvrière dans les Hautes-Alpes pour les élections régionales PACA. On va poursuivre notre discussion à travers votre regard sur l'actualité, Frédéric Keshra, et à travers surtout la tribune libre.
Nouvelle réduction des inégalités en 2014 d'après l'INSEE. Les hausses d'impôts ont porté sur les plus riches, les baisses ont favorisé les plus modestes. Est-ce que vous l'avez ressenti ?
Ce que je constate, c'est que pour un certain nombre de travailleurs, ils n'en voient pas tellement la couleur de toute façon parce que les prix, ils augmentent de partout. Alors, si on veut vraiment réduire les inégalités, il faut augmenter les salaires et les plus bas salaires en particulier. Le fait qu'on taxe moins les uns ou les autres, vous savez que la taxe qui touche le plus les travailleurs, c'est la TVA. 20% sur tout ce que vous achetez, c'est la moitié du budget de l'État. C'est avec ça que l'État remplit ses caisses, en réalité. Donc si on veut vraiment permettre aux ménages, avec des petits moyens, de pouvoir accroître leur pouvoir d'achat, il faudrait baisser largement la TVA et faire peser l'impôt sur les plus riches, sur les grandes sociétés et leurs profits, et retaxer les profits à la hauteur de ce qu'ils étaient il y a 30 ans, c'est-à-dire 50%. Et là, on trouverait certainement... je ne sais pas si, par ailleurs, vous... Bon, si, j'imagine que vous le savez, mais les salaires, le salaire moyen des femmes, il est largement inférieur à celui des hommes. Augmenter ces salaires. Augmenter, il faudrait que tout, à travail égal, tout le monde ait le même salaire.
J'en reviens à l'INSEE parce que j'ai dit exactement tout le contraire de ce qu'a dit Cyrielle, donc je reprends mes propos évidemment pour ceux
qui... De ce qu'a dit l'INSEE.
Oui, de ce qu'a dit l'INSEE, mais enfin de ce que relatait Cyrielle à l'instant. La hausse d'impôts ont porté sur les plus riches, tandis que les baisses ont favorisé les plus modestes. Ça prouve une chose, c'est que, finalement...
Mais qu'est-ce que vous entendez par les plus riches ? C'est-à-dire, des ménages qui gagnent 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est pas la bourgeoisie, ça. Bon, la bourgeoisie, elle est exonérée de bien des impôts, de bien des possibilités de payer ce qu'elle doit sur ses bénéfices. Ils ont de multiples possibilités de faire passer leurs bénéfices et de les exonérer d'impôts, justement.
C'est-à-dire que le ressenti, ce que dit l'INSEE, c'est que le ressenti, vraiment... ce que dit l'INSEE, c'est que le ressenti est faux finalement. C'est qu'on a la tendance à croire que
les chiffres sont faux.
Ouais, que les chiffres sont faux et que on aurait tendance à croire
Demandez aux 6 millions de chômeurs s'ils ont l'impression qu'ils vivent mieux aujourd'hui.
Donc l'INSEE a tort.
Mais c'est des statistiques. Et vous savez, quand vous faites des moyennes, les moyennes, elles gomment les inégalités.
François Hollande a été un plus mauvais président que Nicolas Sarkozy.
Mais il a aggravé la situation pour les travailleurs. Et d'une certaine façon, c'est une démoralisation supplémentaire pour les travailleurs qui se disent, mais on peut même pas compter sur ce personnel politique-là. Donc, du point de vue de la conscience de classe, la conscience des travailleurs, de ce point de vue-là, il est peut-être certainement beaucoup plus démoralisant pour les travailleurs que Nicolas Sarkozy.